Bien, bonsoir et merci d'être venu à ce rendez-vous de la BPI par ces beaux jours de printemps pour entamer ce deuxième volet du colloque consacré au féminisme, je dis bien au féminisme au pluriel, à la situation des femmes. Dans un premier temps, en octobre 2004, et l'auditoire était nombreux, nous avions fait un retour aux sources, des sources relativement récentes, à l'année zéro. L'héritage des années 70, ce legs que nous avions transmis aux générations d'aujourd'hui, trois décennies ont passé, et après cette période d'énergie, d'inventivité, d'une certaine fantaisie, d'une ivresse de la liberté, de la libération des femmes, mais peut-être vous me contesterez, c'est comme ça que je m'en souviens, d'avoir retourné ces questions dans tous les sens, qu'avons-nous conquis, que reste-t-il? Et aujourd'hui, comment se posent ces questions de la situation des femmes, du mouvement féministe? Nous avions eu le bonheur de croiser des regards entre générations, filles et femmes d'aujourd'hui s'entretenaient avec leurs aînés. Aujourd'hui, on renverse la perspective 2005 des femmes et du politique. À l'heure où le président Chirac confie à Nicolas Hamelin, ministre de la parité, de l'égalité, le soin d'un projet de loi sur l'égalité des salaires, mais il faut attendre 2010 et c'est long, il me semble, nous avons choisi d'interroger le féminisme en l'écho à la situation des femmes aujourd'hui à travers le prisme du monde du travail. Les femmes représentent aujourd'hui la moitié des gens qui travaillent. Elles ont un niveau d'études supérieur, mais elles continuent d'occuper des emplois précaires. Alors, à travail égal, salaire égal, nous disions, où en est-on aujourd'hui? Ce matin, les journaux n'ont pas cessé de se faire écho de ces questions, tout étonné que finalement, ça n'avait pas beaucoup bougé. Il y a eu le débat sur la parité, mais qu'est-ce qui a changé du côté de l'espace public? Les femmes l'occupent-elles autrement? Et comment se joue cette relation entre la vie publique et le privé? Je crois que c'est toutes ces questions auxquelles les 22 femmes qui vont se succéder, ou plutôt se mettre à table ensemble, chercheuses, universitaires, responsables politiques, militantes d'associations, syndicalistes, et qui vont poursuivre cette réflexion entre témoignages et manière de penser ces questions. Quelles sont les perspectives d'aujourd'hui? Voilà ce qui va nous réunir durant ces deux jours. Nous sommes également heureux de regarder du côté des Amériques en croisant nos regards avec Patricia Williams. Et nos deux Patricia, nous devons les remercier particulièrement. Je remercie Patricia Paperman à mes côtés, qui a été notre conseillère pour ce colloque et qui a aidé beaucoup, je crois, Isabelle Bastien-Duplex à construire nos différents débats. Je voudrais encore, avant que nous démarrions, vous dire trois petites choses. Un, qu'il est probable que ce colloque soit retransmis sur le site de France Culture. Je crois que c'est un honneur pour vous, pour nous, pour les débats qui auront lieu. Deuxième point, question très pratique, c'est que nous distribuons des questionnaires pour mieux vous connaître et soyez gentils de nous les remplir, c'est très important. Mais vous aurez un avantage certain, c'est que je vous annonce qu'il y aura encore un troisième volet, et celui-là portera sur le féminin, sur le masculin. Donc, nous vous donnerons aussi rendez-vous pour ce moment-là. Donc, merci d'être présent et bon colloque à tous, et merci encore aux intervenants.
Je serai très brève pour introduire. Le féminisme est encore souvent perçu dans l'opinion publique comme une sorte d'idéologie ou une vision tendancieuse, incapable de considérer le monde social de façon objective et réaliste. Pour d'autres, il ferait désormais partie du paysage comme une affaire entendue, solidement établie et prise en compte, trop même. Il revient donc de saluer l'initiative prise par une institution publique aussi prestigieuse que la Bibliothèque publique d'information d'organiser ces journées qui ne peuvent que contribuer à combattre ces préjugés. Pour une société qui se définit en référence à des valeurs démocratiques, la persistance des inégalités entre hommes et femmes dans les différents domaines de l'existence sociale pose un problème complexe dans le registre de l'action politique comme dans le registre de la connaissance, si tant est qu'on puisse aisément dissocier les deux. La reconnaissance de ces inégalités et l'analyse des mécanismes qui les génèrent ne vont pas de soi. Un des apports majeurs du féminisme est d'avoir mis en évidence un obstacle crucial à cette reconnaissance qui se trouve être à la base de la pensée politique courante sans jamais être thématisée comme telle. La distinction entre un monde public, celui de la vie politique et du marché, et un monde privé, le monde domestique de la famille et des relations personnelles. Cette distinction segmente la réflexion. Elle a pour conséquence d'obscurcir le lien entre des inégalités qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais qui se comprennent mieux comme un cycle d'inégalités qui se renforcent mutuellement. Du point de vue des femmes, il n'y a pas de séparation, il y a continuité entre les deux mondes. La séparation entre le monde public et le monde privé, sur lequel s'appuie la pensée politique, constitue également un obstacle à la reconnaissance du caractère politique de questions, par exemple celle des violences subies par les femmes. L'ignorance dans laquelle cette question a été longtemps tenue est exemplaire de la façon dont cette séparation entre les deux sphères régit et définit ce qui mérite d'être traité comme une question publique et politique et ce qui n'est pas censé concerner la collectivité et les règles du vivre ensemble qu'elle institue. Les réactions que continuent de susciter les résultats de l'enquête sur les violences subies par les femmes indiquent peut-être qu'un problème dit privé n'accède pas facilement au rang de question publique. C'est dans le langage et la rhétorique des droits que s'articule de façon récurrente au cours de ces deux journées le problème de l'accès à l'égalité et à une citoyenneté qui ne soit pas que formelle. On peut toutefois se demander dans quelle mesure ce langage des droits n'est pas également compatible avec le maintien d'injustice qu'il contribue aussi à invisibiliser. Cette question sera reprise dans le cadre de la session de clôture, qui sera l'occasion de réfléchir au rapport entre les féminismes américains et français, qui se développe selon des lignes qui ne sont pas toujours convergentes. Il nous a apparu important cependant de rendre justice à la diversité de ces courants, souvent méconnus ou mal connus. Les présentations qui se succéderont au cours de ces journées ont pour ambition de rendre visibles et accessibles quelques-uns des développements les plus récents des perspectives féministes sur le politique. Il n'était pas possible, dans le temps limité de cette session, de faire apparaître le large spectre des questions qu'une perspective féministe peut aborder et aider à renouveler. Il n'était pas possible non plus de tenter de restituer leur dimension globale ou internationale. Si cette session peut néanmoins donner un aperçu de la diversité, de la richesse, mais aussi de la fragilité de ces approches à partir de quelques entrées qui ont été déjà nommées, le monde du travail, le pouvoir économique, les différents niveaux de l'action politique contre les inégalités, les nouvelles formes de mobilisation et leurs enjeux d'aujourd'hui, les violences et l'accès à l'IVG, alors elle aura sans doute atteint un de ses objectifs. Je vous remercie.
Oui, donc nous allons maintenant écouter la conférence d'introduction par Geneviève Fraisse, qui est philosophe, historienne, qui a été députée européenne donc de 1999 à 2004, et également, sous le gouvernement Jospin, déléguée interministérielle aux droits des femmes. Elle a publié de nombreux ouvrages sur donc le soit du point de vue philosophique, historique ou politique sur les femmes. Et certains de ces ouvrages sont en vente, ainsi que d'autres ouvrages des intervenantes à la librairie Flammarion, qui est située juste au-dessus, dans le forum. À vous.
Merci. J'intitulais cette introduction « Le politique et l'historique ». Alors, une chose tout d'abord, puisqu'il a été fait référence à une partie de femmes politiques, d'action de femmes politiques, c'est que pour moi, c'est strictement la même chose que l'engagement que j'ai eu quand j'étais militante du droit des femmes au début des années 70. Et je tiens à ne pas opposer, parce que parfois on l'oppose, aujourd'hui et hier. Si nous voulons construire l'histoire et si nous voulons appartenir à l'histoire, il est important aussi de montrer des continuités, des ruptures et des continuités. Il y a une continuité entre ce qui s'est passé au début des années 70 et ce qui s'est passé dans les années 90 ou début 2000. Il y a aussi une vraie question que je tiens à souligner du point de vue de la pensée et de l'action des femmes. C'est cette façon dont nous nous sommes emparés de la volonté de penser et d'agir en même temps, c'est-à-dire que la théorie et la pratique, chose qui était tellement discutée après 68, soit quelque chose qui soit une seule et même chose. On peut les distinguer, mais pour mieux justement savoir comment elles vont ensemble. Donc c'est, si je puis dire, pour moi aussi important d'avoir été militante du mouvement des femmes que d'avoir été déléguée interministérielle ou députée européenne. Le politique et l'historique, parce que la seule question que j'ai finalement depuis qu'on cherche à comprendre, comme le disait Patricia à l'instant, qu'on cherche à rendre intelligible cette question, c'est-à-dire à faire que ça soit pas seulement du bavardage idéologique ou pas seulement des slogans, ce qu'on pense que c'est pas nécessairement ce que nous pensons que c'est, eh bien, c'est la question qui me reste après toutes sortes de circulations et de promenades dans ces questions, c'est comment les sexes font aussi l'histoire. Comment les sexes font l'histoire, ça, c'est pas parce qu'on écrit 5 volumes d'Histoire des femmes à laquelle j'ai pu participer qu'on a démontré que l'histoire des femmes existait, ni que ça prouvait l'historicité. Je crois que nous avons un problème particulièrement difficile à dénouer, donc il faudrait trouver la solution, qui est de comment arriver à produire de l'histoire avec les sexes. Permettez-moi de dire sexe plutôt que genre, hein, c'est une coquetterie que je garderai. Je l'expliquerai un autre jour pourquoi, s'il le fallait. Mais on peut aussi utiliser genre, notamment dans la pratique, on est obligé, bien sûr. Mais comment, l'important, c'est comment sortir d'une atemporalité des sexes. Et c'est de mille et une façons que cette atemporalité nous revient en boomerang, y compris dans nos actions. Donc c'est pour ça que je tiens à dire que c'est le politique et l'historique. C'est-à-dire comment on va croiser une construction, une interrogation politique avec ce problème fondamental qui est d'arriver à sortir les sexes de leur atemporalité. Sans doute est-ce là mon ambition ou mon utopie la plus grande par rapport à cette question-là. Alors, ça va être un squelette, cette conférence va avoir la forme d'un squelette, parce que c'est juste des points que je vais à la fois énumérer et organiser entre eux, qui chaque fois renvoient à des développements ou à des démonstrations beaucoup plus fournies et auxquelles je suis donc contrainte de vous renvoyer, notamment sans doute certains textes de la controverse des sexes, les deux gouvernements, parce que la question privée et publique, elle est bien là, et puis ce texte que j'ai intitulé « À côté du genre » et qui se trouve dans ce recueil mondial, puisque c'était une femme par continent, qui a été publié l'année dernière à La Découverte. Peut-être aussi en faisant référence à un autre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « L'état des savoirs », sous la direction de Margaret Marwani, parce que je vais partir d'un court papier que j'ai fait dans ce livre, et que je pourrais appeler aujourd'hui les deux inachèvements de la démocratie. Je commencerai par là. Au fond, il y a bien deux questions, et on va le retrouver de façon diverse, il y a bien deux questions que la démocratie a rendues possibles, de notre point de vue, et que je vais appeler soit la question de la définition de soi, soit la question de la production du droit et du partage de la décision, pour ne pas dire du pouvoir. Je crois, et certaines se reconnaîtront ou en reconnaîtront d'autres, et tant pis, on ne citera aucune des écoles pour rester dans la structure abstraite,
Je crois qu'un des inachèvements de la démocratie tient à la question de la sexualité et à la subversion de la norme. C'est ce que j'appelle la question de la définition de soi. C'est-à-dire qu'on peut subvertir la norme, norme hétérosexuelle, norme de la binarité, norme de toute contrainte sexuelle. On peut aussi penser l'alternative à la norme imposée. On peut aussi imaginer produire quelque chose qui serait de l'ordre du rien, du neutre, de la confusion. Là encore, les termes n'ont pas beaucoup d'importance aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'on a là une mise en cause qui effectivement était un problème pour nos démocrates de la Révolution française, qui était: que fait-on dans le régime de l'identité, de la similitude, c'est-à-dire le régime de la démocratie, que fait-on des deux sexes? Que fait-on de la différence des sexes? Eh bien, à cette question-là, il a été répondu diversement. Mais de fait, la question est aujourd'hui posée encore, après ces deux siècles où elle a été diversement posée dans le temps et dans l'histoire. Et c'est donc celle que j'appelle la subversion de la norme, et qui, en général, pose la question de savoir si, à partir d'une définition de soi subversive, quelque chose d'une subversion plus large est rendu possible. Bien entendu, il n'est pas là question d'une pratique individuelle, mais de ce que, à partir d'une définition individuelle, quelque chose de l'ordre de politique pourrait advenir ou être rendu possible. Le deuxième inachèvement de la démocratie, c'est la question, on va l'appeler, du partage de la décision, de la production du droit. La production du droit suppose qu'on va remanier le rapport entre les sexes, ces fameux rapports inégaux, qu'on va les remanier pour qu'ils tendent vers l'égalité. Et ça va se passer par un certain nombre d'événements historiques, soit des points de rupture, soit des événements qui en déclenchent d'autres, disons la Seconde Guerre mondiale, qui permet enfin que la réclamation du droit de vote soit obtenue, ou bien il y aurait d'autres exemples. Mais on va produire du droit, et la question est là d'achever la démocratie au point que femmes et hommes puissent se partager ce qu'on appelle en langage européen la prise de décision, ce que nous on peut appeler plus vulgairement le pouvoir, qui est un mot totalement très mauvais à utiliser, mais on dirait donc le partage de la décision, ce que je peux aussi appeler les gouvernements, parce qu'il y en a bien deux, celui de la famille et de la cité, il n'y en a pas qu'un. Et on aura là une production de réalité nouvelle. Bon, là, je vais très vite, mais c'est juste pour dire que c'est important, je crois, pour lire beaucoup de choses, qu'on ait, me semble-t-il, toujours en tête cette double possibilité qui a traversé diversement la pensée féministe ou des réflexions au sens large sur tout ça, et qui parfois se croisent et parfois se décroisent. À vous, après, de faire le tri, mais je crois qu'il faut les avoir toutes les deux en tête. Alors, la deuxième chose dont je veux, dans mon énumération, puisque ça sera une énumération, après celle des deux inachèvements de la démocratie, dont je ne suis pas sûre qu'ils s'achèvent un jour. Je bavardais avec une étudiante juste avant d'arriver qui me disait: croyez-vous que l'égalité est réalisable? Ça, c'est, voilà, c'est à cette question, on répondra que de toute façon, c'est à la condition que pour moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais ce que je sais, c'est que c'est bien l'égalité des sexes qui a été la condition de possibilité de ma pensée et de notre pensée. C'est-à-dire que l'égalité est une condition de possibilité avant d'être ce que c'est aussi, un horizon, une utopie, un objectif. Deuxième élément de mon énumération, ce que j'appelle la controverse. La controverse des sexes, pour moi, est un terme extrêmement important. Je crois que nous sommes aujourd'hui, dans le débat féministe, dans ce que j'appelle l'espace de la controverse, après deux autres moments historiques qui, depuis le retour de l'idée d'égalité au XVIIe siècle, de l'égalité des sexes au XVIIe siècle, de Marie de Gournay à Paulin de la Barre, pour aller vite, un retour puisque c'est une idée qui a été produite sous l'Antiquité aussi, nous sommes dans le troisième temps, je crois, d'une réflexion induite par cette condition de possibilité de l'égalité des sexes. Il y a ce que j'appelle la querelle, le procès, ou plutôt l'impossible procès, et la controverse. Alors, brièvement, La querelle, c'est simple, mais on en a encore des rémanences quand on débat sur la parité, c'est quel est le meilleur des deux sexes ? C'est lui ou c'est nous, c'est vous ou c'est elle ou eux, etc. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la querelle des amis à l'époque classique, qui est une joute sur la précédence, donc qui suppose qu'on définisse ce que sont l'un et l'autre sexe. Hein, je crois aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire ça, enfin... Pour moi, c'est la différence des sexes est une catégorie vide que je ne remplis pas, et certainement pas avec la différence sexuelle. Mais disons que c'est pas avant 1900 qu'on a pu commencer à vider la catégorie. Mais là, on a une joute sur qui est le meilleur des deux. On a pu avoir la question de l'alternative. Hein, est-ce que le sexe féminin peut subvertir le sexe masculin, etc. pourrait faire partie de ça. Et certains débats politiques sur seront-elles meilleures en politique ou pas relèvent de la tradition de la querelle. Ça, c'est la première figure. La deuxième figure, c'est celle que j'appelle l'impossible procès. J'avais emprunté l'image à Stuart Mill, mais je l'avais appliquée dans Muse de la raison à la Révolution française. L'impossible procès, c'est ce qui va marquer la naissance du mouvement féministe, c'est-à-dire du féminisme comme collectif. Premier élément sur la Révolution française, après démarrage réel après 1830. Et ça, c'est la construction du procès, c'est-à-dire du tribunal. Je porte au tribunal l'inégalité, je dénonce l'inégalité et je plaide pour l'égalité. Il y a plusieurs scènes primitives, hein, notamment le débat autour de Soulain Maréchal, mais aussi le débat sur les femmes poètes, qui montrent comment on va mettre en place un tribunal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être la place de celui qui est attaqué, qui se défend, et puis de ceux qui attaquent et qui justifient leurs arguments. Bon, c'est très très bien raconté comme forme, me semble-t-il, dans les premières pages de Stuart Mill. D'ailleurs, ça vient d'être édité, je crois, chez Payot. Et ça, c'est ce que j'appelle l'impossible procès. Le mouvement féministe est quelque chose qui relève de la procédure. Dénonciation, transformation du droit, comme je disais tout à l'heure, etc. Et nous sommes bien sûr, tout mouvement féministe relève de l'impossible procès. L'impossible procès, parce que d'ici à ce qu'il y ait un jugement, hein, là c'est comme la question de l'égalité, pour dire que nous sommes dans l'inégalité, etc., c'est pas demain la veille, vous le savez très bien. Troisième figure, je pense aujourd'hui, c'est celle de ce que j'appelle la controverse, qui est intéressante parce que elle a établi, moi j'avais l'habitude de dire en rigolant que dans le débat sur la parité, que j'étais drôlement contente parce qu'on était suffisamment nombreuses pour être en désaccord. Et c'est vrai, c'est-à-dire la question du nombre permet le désaccord, ça c'est la démocratie, ce qu'on appelle le dissensus, il n'y a pas de démocratie sans dissensus. Il ne faut jamais pleurer que les féministes soient en désaccord, certainement pas si on pense au 6-8 mars de l'autre jour, mais la parité en est un exemple plus lointain dont vous vous souvenez aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Alors, maintenant, il faut la définir, cette controverse, c'est-à-dire il faut la formaliser. Ça veut dire quoi, par exemple, si je prends le débat sur la parité ? Ça veut dire que l'objectif était commun, nous voulons plus de femmes dans les procédures, les lieux de décision, les lieux de pouvoir, et simplement, nous différons sur les moyens. Une loi, pas de loi, laissons l'universel faire, ou bien changeons les partis, enfin, etc. Tout ça, ça voulait dire que sur un objectif commun, les moyens étaient divergents. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler... une controverse. Maintenant, l'histoire se complique bien sûr parce que la controverse, ça peut être aussi, à l'inverse, un différent sur l'objectif. Et là, nous en avons des exemples sous les yeux depuis le débat sur la parité, c'est que le différent sur les objectifs concerne tout le débat sur la prostitution, tout le débat sur le foulard, sont des débats où nous pouvons différer. Même si on va appeler ça du même nom, la question, mais je vais en venir à comment penser ça, la question quand même fait que c'est pas seulement sur les moyens, mais aussi c'est sur la fin qu'il peut y avoir divergence. Donc je crois que la figure de la controverse est aujourd'hui celle qui est la nôtre, qui est la nôtre dans laquelle il faut que nous installions, non pas avec sérénité, mais en tout cas avec lucidité. Alors ça implique justement de revenir à mes deux inachèvements, mais je vais les dire cette fois-ci autrement. Parce que si on reprend les deux controverses que je viens d'évoquer, celle qui ne pose pas de problème sur l'objectif et celle qui en pose une, on s'aperçoit que c'est et qu'en fait, nous n'utilisons pas, dans les définitions que nous faisons de l'émancipation des femmes, on va dire, ou de la libération des femmes, on peut garder le choix des formulations, vous savez que les deux ont été employées depuis le 19e siècle, on ne définit pas ce qu'on mettrait sous ces mots-là. Or, moi, j'utilise tout le temps, donc je ne vois pas pourquoi, je continue à le proposer, j'utilise tout le temps une distinction qui m'avait sauté aux yeux au moment de 95 et de Pékin, qui était celle entre l'égalité et la liberté. De fait, hein, la parité est un débat sur l'égalité, et le foulard et la prostitution sont des débats qui sont sur la liberté et sur l'égalité. Et chaque fois, on a des sujets simples, on a des sujets très simples, où on peut dire ça, il s'agit que d'égalité ou que de liberté. Hein. La question des violences est une question de liberté, la question de citoyenneté est une question d'égalité. Et puis, il y a énormément de sujets, dont l'emploi, dont les questions de l'égalité professionnelle, qui est aussi une affaire de liberté. Hein. Et cette deuxième controverse, prostitution, foulard, etc., mélange liberté, égalité, et nous, notre travail pour savoir quoi penser, quoi faire, hein, qui sont nos deux objectifs, sera évidemment à la fois de savoir les dissocier, quitte à les remettre ensemble. Mais je tiens à proposer de garder toujours les deux concepts d'égalité et de liberté pour travailler le féminisme, ce qui m'oblige à rappeler qu'on opposera, si on pouvait cesser définitivement, mais je n'y crois plus, d'opposer égalité et différence, ça serait bien. Alors, on peut débattre dessus et tout le monde ne sera pas d'accord. Mais je continue à penser qu'opposer un concept politique à un concept ontologique n'est pas une bonne chose. Je continue à penser qu'opposer différence à identité, c'est ce que j'ai appris à l'école de la philosophie, et c'est bien utile. Et ça me permet aussi de penser qu'au lieu de me battre pendant des années sur, avec des mots d'ailleurs que moi je n'emploie jamais, sur différenciation, je ne sais pas quoi, la question de l'identité de la différence est définitivement une aporie. Alors, après ça, cette aporie, c'est comme ma catégorie vide. D'autres utiliseront la subversion de la norme et la redéfinition de la sexualité pour le remplir. Moi, je n'ai pas obligatoirement besoin de le remplir. En tout cas, ça veut dire que dans cette controverse, j'ai affaire à quatre concepts et non pas un ou deux, égalité, différence, etc. J'ai nécessairement affaire à quatre concepts qui sont identité et différence, et ils sont définis par ce que j'appellerais de l'ontologique. Et c'est là où on va avoir le problème de la subversion des normes, qu'on fait mes deux premiers inachèvements, et égalité et liberté, qui sont des concepts absolument politiques, et qui se conjuguent soit avec l'identité, soit avec la différence, suivant les objets que nous avons à travailler ou à transformer. Donc, moi, dans ma deuxième énumération, c'est donc ce repère sur la controverse. Le troisième point de mon énumération, c'est ce qu'on va appeler l'utopie commune. Alors, je sais, pour parler parfois à des gens qui ne sont pas de ma génération, que l'utopie, c'est vrai que pour la génération dite de 68, l'utopie avait des vertus que, pour ma part, je n'ai pas encore oubliées. Parfois, j'entends que ça veut dire irréaliste, etc. C'était pas du tout ça. Ça veut dire quoi, l'utopie commune? Alors, ça veut dire qu'on va être obligé de formuler des choses difficiles et dont on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller avec. Alors, je vais commencer très mal dans l'utopie commune, c'est-à-dire que le premier point prend justement plutôt la forme d'une contradiction. Encore une fois, lucidité oblige, on va faire avec la contradiction. Je n'arrive pas à m'en sortir, ni sur le plan de la réflexion de chercheuse, ni quand j'ai été confrontée à des choix politiques, je n'arrive pas à régler le problème du particulier et du tout. L'exemple européen est très simple. Hein, on a une commission des droits de la femme où j'ai siégé pendant 5 ans, et de l'autre côté, on a le gender mainstreaming. Je vois que Véronique Kayser est là, et elle sait bien à quel point à la fois faire du gender mainstreaming et du droit des femmes, c'est la quadrature du cercle. Je l'ai vu aussi quand j'étais dans l'administration et dans une fonction nationale. Je l'ai trouvé aussi dans les textes, je l'ai trouvé dans ma recherche. J'ai fini par me dire qu'il fallait que je le prenne comme une contradiction et rien de plus. Et j'aurais mis l'exemple, et vous en avez sûrement, et plutôt là encore que de savoir si on va travailler le particulier. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Si on fait une politique en faveur des femmes isolées, à ce moment-là, on les stigmatise. Mais si on remet dans l'universel des politiques à l'égard de l'ensemble d'une population qui serait en difficulté, alors là, les femmes vont tomber et on risque de ne plus soutenir et d'avoir des politiques correctes pour les femmes. Donc là, on a un vrai problème. Moi, quand j'ai proposé de faire un rapport d'initiative sur femmes et sport à la commission femmes était très contente. Je retourne à la commission culture où sport est la compétence de la commission culture. Et là, on me dit comment la commission femmes ose travailler sur femmes et sport, alors que c'est à nous le sport. Vous le feriez, le rapport sur femmes et sport? Ah ben non, on le ferait pas. Alors si vous n'acceptez pas que d'autres le traitent, et ça c'est ça en permanence, la contradiction donc de la transversalité, c'est-à-dire de celle qui ferait qu'on pourrait enfin faire que cette question femme soit prise dans toutes les politiques, et celle qui fait qu'on est obligé de désigner, de garder une politique spécifique. Bon, des exemples, vous en avez évidemment des tas. Donc cette forme de contradiction, on l'a diversement aussi, on l'a historiquement, entre ce qu'on peut appeler, par exemple, la sexuation du social, qui a correspondu à une sexuation du politique. Pendant qu'on était en train de débattre de la parité en politique des hommes et des femmes, et si c'était des vrais hommes et des vraies femmes ou pas, ou si c'était... pendant ce temps-là, on était en train d'asexuer, des apostrophes, asexuer complètement les politiques sociales, c'est-à-dire de ne plus voir... hein, les familles monoparentales, 80% de femmes, le temps partiel, etc., 80%, les pauvres, 80%, mais à partir du moment où ça a des termes pour sortir de la stigmatisation, parce qu'on ne peut plus dire mère célibataire, c'est affreux, ou fille mère, ou femme seule, etc., donc on va dire famille monoparentale. Donc tout ça, c'est pour sortir d'un élément négatif, d'une caractéristique qui est de la stigmatisation. Résultat, on perd au passage, on peut se retrouver dans des réunions ministérielles où plus personne ne sait qu'il s'agit de 80% de femmes. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'asexuation du social. Donc là, on est pris vraiment, s'il faut parler d'utopie, on va déjà partir de la représentation d'une contradiction insurmontable. Mais au lieu de penser qu'elle est insurmontable au sens qu'on va rien faire, on va faire avec. Mais ça nécessite peut-être d'autres interventions. Excusez-moi, il faut que j'aille très très vite. Deuxième chose pour caractériser l'utopie commune, c'est clairement, et ce qui rejoint les deux inachèvements, le privé politique. On n'en a pas fini avec cette phrase, et cette phrase doit être, pour moi, pour nous, je le propose, et je sais qu'elle l'est pour beaucoup de femmes et de féministes, la clé de l'histoire. Le privé politique, on fera énormément de choses avec ça. Et c'est ce qui permettra de lier aussi ces deux inachèvements que j'ai dissociés tout à l'heure, c'est bien parce que le privé est politique. Et on va le décliner de toutes les façons. Alors moi, la façon dont je l'avais décliné, et j'y tiens beaucoup... C'est sur cette histoire des deux gouvernements. C'est une histoire extrêmement importante pour moi parce que c'est une réflexion qui m'est venue au milieu des années 90 avec le débat sur la parité. Et le débat sur la parité, rappelez-vous, s'est trouvé relié immédiatement au débat sur le PACS, c'est-à-dire de l'union des homosexuels. Et alors moi, j'avais du coup une sorte de synergie entre les deux, et qui était qu'on ne pouvait pas, puisqu'on disait, mais alors, bon, c'est très bien, on va les lancer dans l'espace politique, on peut éventuellement faire une réforme, il faut plus de femmes dans l'espace public, etc. Et pendant ce temps-là, comme on discutait tout à l'heure avec une étudiante de Paris 1, et bien voilà, comment on va faire pour l'espace privé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est-à-dire, pendant ce temps-là, si on met des réunions le soir, les femmes ne peuvent pas y aller, puis comment on fait garder les enfants, enfin bref. Et pendant ce temps-là, il y avait l'autre débat qui était une union qui peut avoir un projet familial, adopter des enfants, comment peut-elle se construire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors la famille, papa, maman, etc. Eh bien, je dois dire que l'importance pour moi de sortir justement des deux sphères, d'abandonner ce schéma-là. Ce schéma-là, parce qu'on avait pris l'habitude, en travaillant sur le 19e siècle, avec d'autres historiennes, de voir à quel point ça circulait entre le privé et le public. C'est pas la séparation comme ça. Je veux dire, la réalité n'est faite que de la circulation et du mélange. Alors, c'est bien que c'est la représentation qui a été produite pour fabriquer ces deux sphères. Alors, cette représentation, elle est très très clairement produite par Rousseau dans Le Contrat social. Et Rousseau, dans Le Contrat social, dit qu'il ne veut plus du sophisme de comparer le père et le roi. Grande tradition de la monarchie, bien sûr, hein, avec l'État qui prend sa forme dans la forme de la famille. Il veut plus de ça. Pour construire le contrat social, il a besoin d'écarter l'espace domestique. Après ça, ce qui fera du père, Rousseau, c'est une autre affaire. Et ce n'est pas l'affaire dont je parlerai aujourd'hui. Mais en faisant ce geste, il fait que l'espace public devient un espace dans lequel ne sera pas pensé l'espace familial. Et je crois que tout le travail qui a été fait par les émancipateurs divers et par les féministes en particulier pendant 2 siècles a été de reconstruire le lien entre les deux et, j'ajoute, pour ma part, de ne pas le représenter seulement comme un espace où il faudrait équilibrer les choses, concilier avec, une sphère publique, mais bien voir que la famille était, avant d'être une histoire de papa-maman ou de couple homosexuel ou d'enfant ou de pas enfant, c'était un lieu de pouvoir, c'est-à-dire un lieu de gouvernement. C'est-à-dire que si on nous a débarrassé de l'analogie entre le père et le roi, on nous a débarrassé et du roi et du père, en revanche, ce que l'histoire a produit, et on en est l'éclatante image à la fin du 19e et à la fin du 20e, au début du 21e siècle, c'est que cet espace démocratique de la famille, c'est pas seulement le 1 plus 1 plus 1. Hein, il y aurait les droits de l'enfant, il y aurait les droits de la femme, qui seraient plus embêtées par les prérogatives masculines, qui auraient des pouvoirs, elles auraient enfin le droit de travailler sans lui demander son avis, ou de partager l'autorité parentale, etc. Ça, c'est une représentation, et puis on partagerait les rôles et les tâches. Pas du tout. Il faut absolument abandonner toutes ces notions et considérer que l'espace domestique est un espace de gouvernement, c'est-à-dire un espace où se discute, se prend et se partage le pouvoir. À partir de ce moment-là, on est amené à comprendre que le privé et politique, non pas comme de deux espaces, et de ce point de vue-là, effectivement, je ne serais pas d'accord avec une lecture aristotélicienne qui traverse certaines même philosophes du XXe siècle. Je crois que nous avons tout intérêt, enfin telle est ma proposition, à reprendre ces deux ensembles parce que ça permet de penser aussi bien la tradition que la subversion, suivant les cas de figure. Ça permet aussi de voir que ce n'est pas seulement une addition de droits, que la démocratie, ce n'est pas seulement une addition de droits individuels, mais aussi une construction politique. C'est ça aussi le pouvoir. Ce n'est pas seulement qui occupe la place du pouvoir, c'est ce qu'on fait de ce pouvoir. Et c'est seulement, moi je me souviens, c'était la GED, grand sujet, rappelez-vous, de l'automne 97, on allait supprimer l'aide pour les emplois à domicile, donc ça allait pénaliser les femmes. Attendez, ça allait pénaliser les femmes ou ça allait pénaliser le père et la mère, ou ça allait pénaliser... Alors, c'est drôle, parce que c'était l'homme qui faisait la déclaration à l'URSSAF et la femme qui profitait du temps libéré. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était des choses inimaginables, irreprésentables. Et que, puisque c'était cette irreprésentation était justement une espèce de partage, de séquence d'individus à l'intérieur d'un espace domestique, espace privé, et que ce qui m'importait, si je restituais la notion de gouvernement, qui est une notion d'Ancien Régime, qui est un concept d'Ancien Régime, hein, on nous a bien expliqué hein, qu'il y avait le gouvernement, la souveraineté, puis qu'il y avait la démocratie représentative. Mais non, ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'à travers cette notion de gouvernement et l'articulation entre les deux, au passage, moi, je jette le mot conciliation, parce que c'est une gestion des conflits. Et quand j'étais déléguée interministérielle, j'ai injecté dans l'administration le mot articulation, qui de temps en temps ressort, je le vois flotter. J'ai eu beaucoup de mal au Parlement européen, où chaque fois j'essayais d'expliquer à mes compagnes de la Commission que je n'aimais pas le mot conciliation. Souvent on emploie le mot combine aussi, qui est déjà plus positif, mais je pense qu'il faut avoir une version positive, additionnelle de ces deux gouvernements, et certainement pas de répéter, de restituer sans cesse le conflit qu'il y aurait uniquement pour les femmes. Donc c'est une version complètement anachronique par rapport à la démocratie qui serait entre ces deux espaces. Donc voilà pour... Je passe très très vite parce que je veux en venir à des choses aussi qui m'importent. Voilà pour ce qui serait d'une utopie commune à ces différents courants et à ces différentes figures de la politique. Alors... J'allais dire, je disais l'autre jour à la Sorbonne, là, dans le débat autour d'état des savoirs, si la catégorie différence des sexes est vide, l'histoire est pleine. Oui, je crois que l'histoire est pleine. Alors maintenant, simplement, il faut voir, et là encore, il faudrait y passer beaucoup de temps, sur la grande difficulté que nous avons à nous introduire dans l'histoire et à ce que l'histoire reconnaisse que les sexes font l'histoire, font aussi l'histoire. Il n'y a pas que les sexes qui font l'histoire. Et pour ça, je voudrais rapidement évoquer la grande difficulté à la représentation de l'effet des femmes dans l'histoire. C'est au XIXe siècle, il y a au fond 3 possibilités. C'est ce que j'appelle la condition, la conséquence et la ruse. Au XIXe siècle, pour les femmes, l'histoire se mérite. vous êtes priées, mesdames, de sortir de l'église et de monter et d'aller à l'école, alors on vous donnera le droit de vote. Donc l'histoire n'est pas, c'est une condition. Une fois que vous serez éduquées, et ça, il y a des tas de féministes qui vont le dire, pas seulement des réactionnaires. Hein. Je veux dire, il y a des courants féministes dans la République qui ne disent pas autre chose, pour en citer une que j'aime bien, qui s'appelle Clémence Royer, mais une autre plus républicaine, comme Maria Derem. C'est allons-y, d'abord encore un effort, et puis vous verrez, vous pourrez être citoyenne. Donc l'histoire se mérite. L'histoire se mérite. Et s'il y a une sorte de, si on prenait des images de Michelet, comme de banquet de la démocratie, et les femmes, tant qu'elles dépendront de la religion et tant qu'elles ne seront pas éduquées, donc la femme n'est pas prête. Donc l'histoire ne peut attendre, l'histoire avance, l'histoire de la République, l'histoire de la démocratie, et il faudra que les femmes rattrapent le temps perdu. Alors, elles le rattraperont plus ou moins facilement. Vous en connaissez, là encore, nos deux siècles d'histoire. Ça, c'est ce que j'appelle la condition. On est à la porte, et puis on va pouvoir entrer un jour. Inversement, vous trouvez aussi, pour la même période, le fait que l'histoire peut faire attendre les femmes. L'histoire, à ce moment-là, les femmes relèvent alors, cette fois-ci, non plus de la condition, mais de la conséquence. Faites la révolution, je vous assure, vous aurez l'égalité des sexes. Il y a des courants, aujourd'hui, d'extrême-gauche qui ne disent pas autre chose, qui ne font pas autrement en pratique. Moi, je suis étonnée, parce que ça quand même, ça rappelle, on l'a appris par cœur, cette histoire-là. On l'a appris par cœur dans l'histoire, on l'a appris qu'on ait lu la Révolution russe, qu'on ait lu la Révolution française, on l'a appris par cœur dans notre histoire au lendemain de 68. Je veux dire, vous êtes la contradiction secondaire. Attendez, ça va venir. Bien, moi, ça me pose un vrai problème, parce que là encore, nous ne sommes pas, en dehors du fait qu'on en connaît, on en connaît quand même l'impasse, c'est que nous ne sommes toujours pas dans l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire nous fait attendre, et ça sera surtout, quand nous n'attendrons plus, ça sera une conséquence de facto. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'histoire sans production, il n'y a pas d'histoire sans temporalité, il n'y a pas d'histoire sans faire. Et là, ça c'est de l'histoire sans historicité. Donc, on peut être du côté de la conséquence. Et puis, alors, il y a, vous l'avez, mais alors, évidemment, il y a des choses qui vont introduire des grandes difficultés, c'est ce que j'appelle les contretemps. Et ça, je voudrais insister beaucoup là-dessus, nous sommes souvent à contretemps de l'histoire. Et un très bon exemple. Je me souviens avoir eu une malheureuse dispute avec des cinéastes qui avaient fait un film contre le travail. Et ils exprimaient toute leur joie à avoir critiqué le travail, etc. Et moi, j'avais été rabat-joie, j'avais dit, mais vous savez... Et pendant ce temps, les femmes ont envie de travailler. Et pendant ce temps, les femmes vont vers le marché du travail. Et pendant ce temps, les femmes au temps libre préféreraient avoir un temps partiel, je veux dire, préféreraient avoir un temps plein. Et ils l'avaient extrêmement mal pris. Parce que nous sommes très souvent dans le contretemps historique. Et ça arrive, c'est en train d'arriver en ce moment. Ça nous est arrivé pour l'emploi, ça nous est arrivé pour la citoyenneté, ça nous est arrivé dans le champ philosophique sur la question du sujet. Nous étions malheureuses en train de construire le sujet, l'actrice de l'histoire, etc., dans les années 75, quand il fallait que le sujet soit mort, que l'homme disparaisse, etc. Vous pensez que c'était une contradiction extrêmement douloureuse à vivre. Et moi, j'en ai des souvenirs nombreux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que, de toute façon, j'étais désolée. Moi, je ne pouvais qu'être dans la production de la construction du sujet femme, on peut l'appeler de façon diverse, mais en tout cas, donc il y a des contretemps, il y a des paradoxes, il y a même des anachronismes dont nous devons prendre la mesure dans l'histoire des femmes. Et si nous voulons rentrer dans l'histoire, il faudra rentrer avec ça. Alors il y en a qui tranchent dans cette affaire. C'est très curieux et ça mérite aussi réflexion. Il y a deux auteurs à presque deux siècles de distance, enfin 150 ans de distance, c'est Fourier et Armatiassen. Ces deux-là disent la liberté des femmes, c'est la mesure de l'émancipation. On mesurera l'état d'une société à la situation dans laquelle se trouvent les femmes. Rappelez-vous la célèbre phrase de Fourier. Armatiassen, l'économiste prix Nobel et spécialiste, ne dit pas autre chose quand il travaille sur la capacité des femmes. C'est-à-dire là, c'est à la fois la mesure de l'état d'une société et l'instrument de la transformation d'une société. Alors, on peut se poser la question, tiens, on va instrumentaliser quelque chose là. Il faut réfléchir à ça, bien sûr. Mais néanmoins, on a affaire là à des pensées qui sont des pensées en acte dans l'histoire. Comment on va faire avec ça? Donc ces formulations de la place de l'histoire et de l'émancipation des femmes dans l'histoire est prise là-dedans. Nous ne sommes jamais dans le temps juste. Alors, par exemple, combien vous me donnez de minutes encore, Isabelle ? Formidable. Donc, dernier point sur la question de l'histoire. Ce que j'appelle la ruse, que j'opposerai au pari. Ne doit-on pas, n'est-on pas mis en situation de ruse à partir du moment où on prend acte de cette difficulté à être dans le bon temps historique? Je racontais quelque chose que je raconte souvent, c'est la façon dont est rentrée l'égalité de traitement dans les traités européens. Article 119, traité de Rome, 1957. Formidable. On y affirme l'égalité de traitement, la nécessité de l'égalité économique homme-femme. C'est aucun de nos textes nationaux en Europe ne raconte ça. Il y a là quelque chose qui se passe, qui est extrêmement important. Mais est-ce que vous savez comment c'est introduit ? Ça n'enlèvera rien au fait que c'est très important que l'égalité de traitement ait été introduite par l'article 119 du traité de Rome, mais c'est introduite de quelle façon ? Eh bien, s'il n'y avait pas d'égalité entre les hommes et les femmes, tout le monde sait qu'elle n'est pas réalisée 40 ans plus tard, enfin presque 50 ans plus tard, mais il ne faut pas laisser l'inégalité en l'état, car ça serait fausser la concurrence. C'est donc au titre de la lutte pour la libre concurrence qu'on introduit l'égalité homme-femme, économique, j'insiste, économique, dans le traité de Rome, qui donnera les directives de 75, qui donnera les directives de 75-76, directives transposées par la loi Roudy en 83, et qui donnera, par la révision de la directive de 76 en 2002, à laquelle j'ai participé dans cette mandature du Parlement européen, le fait que le gouvernement actuel doit, d'ici octobre 2005, transposer le renouvellement de cette directive. Ça, on ne vous l'a pas dit. Que c'est une transposition européenne, même ceux qui veulent voter oui oublient de vous le dire. Revenons à l'action de la ruse. La ruse, qu'est-ce qu'on fait avec la ruse? Et ça sera mon dernier point dans ma liste qui s'appelle Devenir sujet permanence de l'objet. Je me permets une publicité, c'est un article que je viens de faire dans le dernier numéro de Nouvelles Questions Féministes. La ruse plutôt que le pari. Moi, je n'attends plus depuis longtemps. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici n'attendent plus qu'on nous dise « Le banquet de la démocratie est ouvert, vous y avez votre place en temps et en heure. » Ça ne se passe pas, c'est ça que j'ai essayé de vous dire à travers ces images du rapport à l'histoire. Alors, que nous reste-t-il ? Il nous reste à prendre acte de ce que notre objectif est bien de faire l'histoire. Ça, c'est sûr, en tout cas pour ma part, ça me paraît être notre objectif, mais qu'en revanche, nous ne la ferons pas, on ne battra pas l'amble avec un certain nombre de choses. Et notamment, et ça sera mon dernier point, la question que j'évoquais tout à l'heure du sujet, du devenir sujet, femme, ou de la construction du sujet qui aurait été à l'horizon de toutes nos pratiques et de nos réflexions. On sait très bien que on peut décliner, et c'est, je crois, extrêmement important, la multiplicité des sujets possibles. C'est-à-dire le sujet politique comme le sujet érotique, le sujet de la pensée comme le sujet économique. Je crois qu'il y a mille et une façons de raconter l'histoire récente et comment, au fond, pour reprendre cette image absolument limpide du gouvernement, du ministère d'Yvette Roudy, citoyenne à part entière, c'est le « à part entière » qui a été notre histoire. Nous avons voulu faire du « à part entière », dû à part entière politique, économique, etc. On pourrait parler de l'histoire du sujet de la création, du sujet de la connaissance. C'est un sujet, là encore, depuis deux siècles, extrêmement passionnant et pas non plus si simple. C'est pas seulement de l'accès à, c'est pas seulement du droit. Il y a aussi du dérèglement des représentations et la possibilité de se faufiler entre des choses. Donc ça, c'est ce que j'appelle les multiplicités du devenir sujet. Et peut-être le fait que ce sujet ait toujours été multiple est quelque chose qui nous a préservé d'une unité. Et peut-être nous pouvons faire, et peut-être ça peut être très très bien de rester dans la multiplicité de ce sujet-là. Parce que c'est précisément ce qui nous a préservé d'une unité de la maîtrise et d'autres choses. Mais, disons, je laisserai les choses assez vite. En revanche, je conclurai là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas parce que nous serions dans le à part entière, en allant le plus impossible, il ne reste plus qu'un sujet qu'il faut vraiment traiter, après effectivement tout ce qu'il faut continuer à faire, c'est l'individualisation des droits. La femme est encore prise dans une série de droits relatifs, pas dans tous les pays d'Europe, mais notamment par exemple ici, les droits relatifs, c'est-à-dire quelle retraite va-t-elle toucher, quels droits sociaux a-t-elle, etc., etc. Mais ça, cette relativisation, ça, c'est certains pays la posent déjà comme problème, et je pense que, enfin, telle est en tout cas la perception que moi j'ai de là où nous en sommes aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet espace domestique, les droits doivent non plus à être relatifs les uns aux autres. Bien. Sauf la question de l'autorité de l'enfant, ça c'est quand même autre chose, mais en tout cas entre hommes et femmes. Donc on est dans cette logique du à part entière, de l'individu autonomos, source de sa propre loi. Très bien. Mais l'objet n'a pas disparu. Nous sommes toujours des objets. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va tirer le rideau et dire « Ah ben non, 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 moi je ne suis qu'un sujet, je ne serai qu'un sujet. » Et c'est comme ça que je ferai aussi des choix politiques. Vous les entendez, je n'ai pas besoin de les détailler. Sur le rapport à la liberté, sur le rapport à comment définir le féminisme par rapport au débat, ou est-ce qu'on prend la mesure de ce qu'on va rester des objets d'échange, de ce qu'on est encore, malgré ce à part entière du sujet, des objets d'échange, mais des objets d'échange de diverses façons. C'est-à-dire qu'on peut être une marchandise, on peut être un signe, on peut être échangé comme un signe, faire vendre autre chose que soi. Je vois que Florence n'est pas loin. On peut être à quand le livre sur l'identification entre femme et voiture, j'ai pas encore rien lu là-dessus finalement. Donc on peut être échangé, je règle une dette d'honneur en vendant la jeune femme, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. On peut être un signe, on peut être le signe de l'oppression, la burqa afghane, l'emblème de l'oppression de tout un peuple et plus seulement de l'oppression des femmes. Rappelez-vous qu'en Médecins du Monde met les burqas sur des statues, merci, dans les villes. C'est bien pour représenter l'oppression de tout un peuple. Et nous sommes, je crois, un objet d'échange en politique, nous sommes un objet d'échange dans la pensée. Nous sommes un objet d'échange de toutes les façons. Là encore, c'est comme le sujet, de multiples façons, nous sommes encore des objets. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que faisons-nous avec ça? Est-ce que on essaye de faire le tri, restons sujets, ne sommes pas des objets. Moi, j'ai toujours l'utopie du privé politique et de l'égalité des sexes, la liberté des femmes. Mais est-ce que je peux nier que nous continuons à être des objets? Et je vais vous donner un exemple. C'est simple, bien sûr, s'il faut lutter contre les mariages forcés, formidable, on remonte de 3 ans, il était temps, on aurait pu le faire depuis plus longtemps quand même. De 3 ans, la majorité des femmes pour les marier en France. On peut faire toutes ces choses-là. Mais plus difficile est de voir que nous continuons à circuler dans l'objet de dans l'échange de la pensée. Et vous pouvez avoir différents exemples, mais on en a en permanence en politique. On sert toujours à nous-mêmes et à autre chose. L'exemple le plus simple, c'est que je prends toujours, c'est parce qu'il m'avait horrifié. C'était un article du Monde qui disait « Bande d'imbéciles, pourquoi vous défendez les Nigériens ?» Vous, féministes, vous défendez des Nigérianes qui risquent d'être lapidées, mais c'est une histoire de conflit entre le nord du Niger et le centre et la capitale. Il faut comprendre ce qui se passe vraiment là-bas, et c'est pas de ça. Donc, bon, d'accord, moi, je veux bien qu'on m'explique ce qui se passe entre le nord du Niger. Je veux bien qu'on m'explique que le nord du Niger, pour se fâcher avec la capitale, remet la charia à l'ordre du jour. Mais en attendant, si on a sauvé deux femmes de la lapidation, on a sauvé deux femmes de la lapidation. Donc on est confronté à ça. On est objet et objet d'échange. Et par là même, on agira aussi. Quand je parlais de ruse tout à l'heure, c'est moi, malin et demi. Voilà, en gros, si j'avais une proposition politique, ça serait celle-là. Ça serait à malin et demi, mais en tout cas, d'une certaine façon aussi, je crois qu'il est temps de se rendre compte que nous ne sommes jamais dans le bon temps historique. Et si nous ne sommes jamais dans le bon temps historique, alors il faut en faire la théorie de ça. Et pas seulement rattraper, remailler, déplorer, etc. Voilà, c'est peut-être... nous sommes condamnés au contre-temps historique. Donc... ma subversion, si j'en proposais une, ça serait, je ne me focaliserais pas uniquement sur la subversion des normes, je ne me focaliserais pas uniquement sur produire du droit, mais je serais vraiment pour que nous soyons dans une stratégie historique. Voilà. Voilà.
Donc on peut prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions à Geneviève Fraisse ?
Je voudrais avoir plus d'explications par rapport au bon temps historique et la stratégie historique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Être dans une stratégie historique, d'accord, mais être en même temps à contre-temps, ben je n'arrive pas à voir.
Je ne demande pas que nous soyons en contre-temps, nous y sommes de facto. Nous sommes de facto dans le contre-temps historique.
Et quelle serait la stratégie historique alors, dans laquelle on doit y être ?
Pour moi, certainement ne pas penser qu'on peut se décalquer sur les propositions politiques en général, qui est à définir, qui est, quand je prends l'exemple de l'Europe, et c'est évidemment, ça veut dire quelque chose, le fait qu'on puisse être capable d'avoir notre propre lecture de l'histoire, parce que c'est seulement comme ça qu'on ne sera pas nié comme sujet de l'histoire. Ça, c'est la première chose. Je ne veux pas être nié comme sujet de l'histoire. Je veux aussi savoir produire de l'histoire, et ça ne sera pas nécessairement là encore. Quand il fallait affirmer que nous construisions le sujet à part entière, nous étions dans le contre-temps historique. Il faut assumer d'être dans le contre-temps historique. Aussi, dans certains moments, il faut aussi lutter contre ceux qui nous disent « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, pour les femmes, vous n'en faites pas. » Il faut lutter aussi contre ceux qui disent « Mais à cette condition, alors vous serez des bonnes actrices de l'histoire, etc. etc. » Il y a du pain sur la planche. Moi, je veux dire, tout ce que j'ai pris comme figure, on peut essayer de le traduire en langage politique pour ne pas, et y compris si on prend Fourier Armatiassen, qui, eux, jugent que la question des sexes est la mesure de l'émancipation historique, même là, il faut se méfier parce que... méfier... J'aime pas ce mot-là, parce que la question de l'instrumentalisation se pose aussi. Et il ne faudra pas l'oublier. Et il y a des critiques féministes de la position d'Armatiassen, de par le monde, très importantes aussi. Donc, je veux dire, il faut reprendre chaque fois, pour moi, chaque fois, j'essaie de me représenter comment ce temps de l'émancipation des femmes est impliqué, ou au contraire tordu, ou au contraire détruit dans un certain nombre de politiques. Et aucun affrontement simple, à mon avis, n'est vraiment possible. On peut... j'ai pour ça que j'ai pris exprès au départ, rappelé au départ ce que moi j'appelle les deux inachèvements de la démocratie. Parce que ça aussi, ce sont des pratiques politiques, bien sûr. Ce sont deux pratiques du privé politique. Ce sont deux pratiques politiques. Mais la question que moi j'avais envie de partager ce soir, c'est celle qui, je veux dire, m'intéresse. À savoir comment on va produire de l'historicité. Parce qu'à ce moment-là, ça c'est mon objectif politique global et philosophique et je ne sais pas quoi, existentiel, parce qu'à ce moment-là, on sortira de « les sexes, ça ne fait pas histoire. Les sexes, c'est une affaire en dehors. » C'est toujours ça. On peut aller dans le premier bistrot du coin, en sortant là, écouter une conversation de comptoir, et c'est ça qu'on entendra. On entendra que c'est hors de l'histoire, que ça ne fait pas histoire. C'est aussi pour ça que cet hiver, je fais une intervention sur « pour en finir avec la condition féminine ». J'ai eu un problème avec le terme « condition féminine ». Mais je me suis aperçue que c'était un mot très compliqué, finalement. Plus compliqué que ce que je croyais. Et qui croise l'histoire aussi. Mais enfin, c'est ça aussi. C'est drôle quand même que ce terme de « condition féminine ». Mais n'arrête pas d'être représenté, d'être présenté encore et encore à nous, quand on a supprimé conditions ouvrières, par exemple. Hein, ça n'a pas marché pour tout. Hein. Et quand Hannah Arendt prend le soin de dire conditions de l'homme moderne, c'est-à-dire elle ne fait pas de l'homme en général. Et la condition féminine. Le jour où j'avais fait ça, c'était le 5 février, le soir, il y avait un article sur Juliana Sgrena dans Le Monde. Pour présenter, elle venait de se faire enlever la veille. Comment l'article du Monde la présente ? Cette femme s'est fait remarquer par ses articles sur la condition féminine. Ça faisait étrange, quand même, hein, pour parler de sans doute des articles qu'elle avait fait. Voilà. C'est tout ça qui est le centre d'un affrontement. Ce serait comment ça se fait ? Je veux dire, le fait qu'on maintienne l'anhistoricité des sexes. C'est par là que passe la domination, l'oppression et l'exploitation. Pour moi, c'est par là que ça passe. Et tout ce qui arrivera à faire histoire et à produire histoire sera une façon de... Et c'est pour ça que je pense que c'est important de dire que le féminisme d'aujourd'hui, il a totalement à faire, pas seulement sur une affaire de génération comme pour moi, il a totalement à faire à la vague précédente du féminisme. C'est extrêmement important de dire ça. C'est pas que ça serait pas politique avant et que maintenant ça serait politique, que ça serait pas ceci avant et que maintenant ça serait cela. Ça, c'est de l'anhistorique. Il faut absolument, nous produisons de l'anhistorique aussi, nous-mêmes. Et c'est ça que je prends comme point nodal. J'ai peut-être pas répondu à votre question.
C'est juste une question très courte, justement à propos de cette question d'anhistoricité. Est-ce que vous ne pensez pas que la parité est une nouvelle figure du couple ?
Du couple ?
Je peux ajouter originaire, si vous voulez, au mot couple.
Non, mais parce que... Non. C'est comment dire ? D'abord, vous savez, le mot... ça s'appelle prise de décision en langage international. Ça s'appelle pas parité, d'ailleurs vous ne pourrez pas le traduire. Hein, ça s'appelle équilibre dans la prise de décision, voilà le vocabulaire. Voilà, ben pour moi parité c'est équilibre dans la prise de décision. Ça n'a rien à voir avec le couple. Ça n'a rien à voir. Si on a voulu le remplir, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'image de la querelle, la rémanence, la survivance de la représentation de la querelle. C'est qui l'homme, c'est qui la femme. Mais cette question-là n'est pas nécessaire. C'est pour ça que je parle de catégorie vide. Cette question, de mon point de vue, n'est pas nécessaire. Non, je vois pas de couple dans cette affaire. Je vois de la sexuation éventuellement, mais pas de couple. Pas du tout. Non, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a effectivement une moitié de l'humanité, mais inversement, on peut dire. Moi, je trouve les débats. Pardon ? Alors, si vous dites ça, on peut le dire, mais ça ne me suffira pas pour répondre à toutes les questions que j'ai posées depuis tout à l'heure. Ça ne me suffira pas. Bien sûr, c'est ce que j'appelle la première chose, c'est la subversion des normes. On peut subvertir le 2 de la différence des sexes. Cela dit, vous continuerez, malgré tout, si vous êtes élu au Parlement européen, par exemple, à siéger à la commission femme, à être convoqué après 21h, hein, parce que ça ne sera jamais avant 21h, en plénière, jamais. Sauf peut-être quand ça a été la discussion sur le renouvellement de la directive de 76. Et vous serez contrainte, si vous faites un voyage parlementaire en Afghanistan, de poser la question des femmes. Donc, pour ça... Supprimer le 2 de la sexuation ne peut pas être honnêtement ma seule réponse en politique. Je serais malhonnête si je le mettais là. Et c'est bien pour ça que nous restons un objet d'échange. Et c'est bien pour ça que je prends la catégorie du sujet et de l'objet et que je laisse tomber volontairement la catégorie du même et de l'autre. Je supprime le débat sur le même et l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est identique et différent. Ça, c'est une aporie. Je m'en débarrasse. Je supprime le débat sur le même et l'autre, qui a été le grand débat du milieu du XXe siècle. Et je vous propose le débat sur le sujet et l'objet. Parce que des femmes réelles, il y en a. Et ce n'est pas parce que je supprimerai le 2 de la sexuation que je réaliserai un certain nombre de choses urgentes à faire. Donc je suis obligée de me confronter à ce problème-là. Et je m'y confronte de cette façon-là, en disant il y a des sujets et il y a des objets, et nous, c'est notre figure, c'est la figure qui impose que le contre-temps et la ruse nous forcent à avoir devant nous. Mais je n'ai pas besoin de papa-maman pour ça, hein, ni de l'homme et de la femme. Ce n'est pas là que ça se passe, pour moi, dans la production du politique. Ce n'est pas du tout dans le 2 de la sexuation. Maintenant, on peut subvertir les normes du 2 et de la sexuation. On peut les subvertir. Ce n'est pas la seule possibilité et ce n'est pas la seule chose à faire. C'est une chose à faire, mais certainement pas la seule.
On peut prendre une autre question ?
Oui.
Merci. Je voudrais simplement dire, j'ai bien écouté, il y a quelque chose qui m'a intéressée, c'est l'histoire d'un objectif commun avec des stratégies qui diffèrent au sujet de la parité. Et je dois dire que ça me laisse dubitative. Je pense que quand les stratégies sont vraiment différentes, on peut s'interroger sur l'identité de l'objectif. Et en matière de parité, précisément, il ne me paraît pas qu'il y ait adéquation entre les stratégies et l'objectif. Parce que je n'aurais jamais l'idée de poser cette problématique de la façon « on est d'accord pour qu'il y ait plus de femmes ». Non, non, ça, alors c'est une idée qui ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Je pense que les femmes ont à être associées, qu'elles ont à vivre sous leur propre loi. Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un peu plus de femmes. Même.
Non, mais je l'ai dit trop vite. Non, mais tu as raison, Anne, merci. Parce que tu as raison. Mais je veux dire, c'était pas ça qui m'intéressait là. La question n'était pas, tu as raison de dire que ça ne suffit pas de dire qu'il fallait plus de femmes dans les lieux de décision. Deux, on peut préciser en disant que c'est peut-être pour que les lois ne soient pas les mêmes. Je n'ai pas voulu ouvrir la discussion sur la parité. En revanche, je tenais à souligner le fait que c'est ce qui m'est apparu comme la figure de la controverse et qu'elle est à ajouter dans la réflexion du féminisme à l'image de l'impossible procès, c'est-à-dire de ce qui est dénonciation, réparation, transformation, remaniement, etc., etc., production de droits et de lois. Et que la figure de la controverse, elle est d'autant plus étonnante. Enfin, moi, disons, je vous ai proposé les choses qui me servent, qui me sont utiles. Et moi, autant pour comprendre la naissance de la démocratie, l'image de l'impossible de procès, l'image de Stuart Mill était pour moi efficiente et productive, autant sur les débats de la fin du XXe siècle, elle ne m'était pas suffisante. Et j'ai trouvé que précisément parce qu'on arrivait, ce qui n'a pas toujours été le cas, historiquement parlant, à un degré de présence dans l'espace public et de possibilité. Nous étions suffisamment nombreuses pour être en désaccord dans les colonnes des journaux. Maintenant, Anne, moi, je n'ai pas vu ça si souvent dans ma petite histoire récente, et encore moins dans d'autres histoires. C'est-à-dire la création d'un espace public dans lequel quand même nous serions arrivés à créer, me paraît quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que quand on s'est lamenté il y a un mois sur « Ah ben il y a deux manifestations pour le 8 mars, c'est affreux », moi j'ai immédiatement pensé, bon, il y a des désaccords, ces désaccords sont exprimés, ne pas être en désaccord, c'est être un historique aussi, si je peux pousser à ce point-là. Donc pour moi, ces désaccords, et ces désaccords affirmés, ces désaccords actés, ces désaccords réalisés dans des pratiques, comme les deux inachèvements de la démocratie, c'est pas qu'après je veux tout ramener en une seule chose, puisque les images que je propose sont des images ouvertes. de multiplicité de sujets, de multiplicité de places d'objets et de controverses. Mais je pense néanmoins qu'il y a des points d'accord qui ne sont parfois pas négligeables et des points de désaccord qu'il faut absolument exprimer. C'est ce que j'appelle la controverse et nous en avons de plus en plus les moyens. On ne va pas se lamenter sur tout, il y a quand même suffisamment de sujets d'être triste sur la condition des femmes. Hein, que pour savoir que là, il y a un espace public quand même qui est... Il y a des éléments d'espace public créés. Et je crois que nous devons... l'Europe est un espace public pour les femmes. Je n'ai pas envie de jeter à la poubelle.
Une dernière question ? L'avant-dernière, Catherine Dedon.
Oui. Je voulais dire que quand on a sauvé deux femmes de la Labitation, il me semble que pour les plus politiques d'entre nous, on savait très bien qu'on prenait position entre le Nord et le Sud. On était vraiment politique, comme actuellement quand on prend parti sur le voile, on est politique, c'est pas les Occidentales contre... je sais pas quoi.
Non, mais nous, on est politique, mais c'était. Je restituais le discours qui était tenu en première page d'un quotidien du soir qui disait les pauvres, elles savent pas ce qu'elles font, elles savent pas de quoi elles parlent, et voilà. Donc je pense bien que nous sommes politiques. Je pense simplement qu'on est justement capable de se dire je prends, là j'en sauve deux, hein, et c'est vrai que, espérons que ça va être emblématique, enfin bon. Que c'est un rapport de force politique, et en même temps de savoir que ça sert à d'autres choses. Ce que je veux dire simplement, c'est que je voudrais à la limite qu'on le fasse en l'exprimant encore plus, c'est-à-dire en sachant qu'on est sans cesse sur ces différents niveaux, et qu'on est à la fois, on est donc à la fois le sujet et l'objet de cette affaire. Et que si on pourrait continuer, on pourrait approfondir ça, au lieu d'apparaître comme étant simplement celles qui vont être les naïves du côté de la bonne conscience occidentale, etc., etc. Je veux dire c'est une proposition, si tu veux, d'aller plus loin dans cette politisation, dans cette réflexion politique, tu vois, on devrait pas se retrouver en butte à ce type de critiques et de commentaires. Ça ne devrait pas être possible, c'est ça que je pense. Et pour moi, si ce n'était pas possible, là, on aurait mis un pied dans l'histoire. Tu vois, sinon, on nous renvoie encore à de l'anhistorique, une fois de plus. Enfin, tu vois, c'est des bouts d'éléments qui, chaque fois, me renvoient à une seule question.
Annie Bureau, est-ce que l'espace des médias est un espace politique pour les femmes?
C'est une drôlement bonne question. Il y en a d'autres qui peuvent répondre à la question ici. C'est une question...
C'est parce qu'il me paraît c'est une question difficile formidable. Que je vous la pose.
C'est une question formidable. Le seul petit élément que j'ai dit, que je reprends, que je redis, que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est... Je pense que nous avons accédé à quelques morceaux d'espace public. Et que ça, on ne peut pas toujours... Enfin, que dans l'histoire, c'est quand même un processus très lent, dans l'histoire de ces deux derniers siècles. Je pense que nous avons quand même là des morceaux d'espace public à notre disposition. Et que c'est en ce sens que je crois que les femmes de notre région du monde... ont de la chance. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas. Je ne réponds absolument pas à ta question. Pas du tout.
Merci.
On va terminer là. Merci beaucoup. Et donc, on va prendre 5 minutes de pause avant le débat sur le travail. Merci beaucoup. Merci.